Salut à tous, c'est Christian, Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour continuer la grande, grande série sur les archétypes des relations. Et en fait, dans l'épisode précédent, on a surtout parlé de l'archétype de la relation maître-élève. Et en fait, dans cet épisode-là, on va parler de l'archétype de la relation conjugale, traditionnelle, conventionnelle. Celle des époux, des personnes qui décident de sacraliser en fait leur relation. Et en fait, là, c'est marrant parce que on pourrait penser bêtement que c'est l'un des archétypes relationnels les plus importants, mais je trouve que c'est pas forcément vrai. Parce que au cours de l'histoire, je trouve que ça concerne pas tant de gens que ça, en fait. Voilà, aujourd'hui, on pense que c'est un dû et tout le monde veut se marier, tout le monde veut ce machin. À l'Antiquité, tout le monde n'avait pas les moyens de se marier. Ou tout le monde n'avait pas forcément envie de se marier avec, je sais pas moi, une personne pauvre. Être pauvre dans l'Antiquité romaine, grecque, spartiate, je sais pas moi, chypriote, d'Afrique du Nord, c'était pas être pauvre maintenant, quoi. Donc, pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui concerne la majorité des gens par rapport à l'archétype du maître et de l'élève, je trouve, qui est assez transcendantal. On peut pas vraiment y échapper, en fait. On a besoin que quelqu'un nous apprenne à écrire, à faire nos lacets, à aller aux toilettes tout seul, etc. Tandis que le truc des époux, c'est un peu plus mystique quand même. L'archétype relationnel des époux, et de manière générale, en fait, la relation conjugale formelle, qui inclut le mariage, donc le mariage, c'est un dérivé de cet archétype-là, ou une manifestation de cet archétype-là, mais c'est pas l'archétype en lui-même, l'archétype est beaucoup plus grand. Mais en gros, il n'y a pas de date spécifique, il n'y a pas d'époque spécifique pour cet archétype-là, même si je trouve que les temps qu'on vit aujourd'hui, très contractualisés, voilà, il y a toujours une histoire de contrat, de dette, il y a toujours une histoire d'héritage, de machin, de tout. Ben, en fait, cet archétype-là, je trouve qu'il se mélange très bien avec notre société vénusienne. Il s'articule parfaitement bien dans le monde très contractuel dans lequel on vit, où les relations doivent être officielles si on veut gagner du capital par rapport à ces relations et partager en fait ce capital. Donc c'est vraiment un archétype relationnel qui a évolué au fil des époques avec une influence majeure de la religion. Il faut savoir que les gens se mariaient quand même avant l'avènement des trois grandes religions monothéistes qui sont hyper importantes, je ne dis pas le contraire, mais quand on regarde toute l'histoire de l'humanité, elles sont arrivées très tard. C'est pour ça qu'on dit que c'est des religions dites révélées. Elles sont arrivées tard, elles ont été révélées. Ce n'est pas des religions qui étaient là et on a décidé de les adopter. Elles ont été révélées par quelqu'un et ensuite on les a suivies. Et donc ces religions, elles ont eu une influence majeure en fait, sur cet archétype, puisque chaque religion et même chaque spiritualité aussi va façonner cet archétype de la relation conjugale conventionnelle à sa manière. Et ensuite, on a la revanche, en fait, je dirais, quelque part, du peuple, des profanes, des païens, avec la grande révolution féministe, les grandes révolutions féministes qui ont provoqué, en fait, des bouleversements sociaux importants et qui ont mis à mal l'institution du mariage, qui ont mis à mal aussi l'archétype de la femme et de son époux. Après, bon, si on est vraiment honnête... est-ce qu'ils l'ont vraiment mis à mal? Est-ce que le fait que, je ne sais pas, moi, Mathilda, immigrée mexicaine, elle vit en France depuis 15 ans, est-ce que le fait qu'elle flash ses boobs avec... non, mais parlons français. Est-ce que le fait qu'elle flash ses boobs à une manifestation féministe va changer l'opinion de Garance sur le fait de choisir tel ou tel mec qui est dans sa classe depuis 20 ans, avec qui ils ont fait toutes les grandes écoles possibles et qui est en fusion-acquisition dans je ne sais quel cabinet, quoi. Enfin, en quoi ça change la vie de Garance, en fait, enfin, tout ça, je vous dis, enfin, même ces trucs de révolution féministe et tout, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est très relatif, hein. Moi, je trouve pas que dans certains espaces, ça a changé la manière dont les femmes, ça leur a donné beaucoup plus de liberté, c'est sûr, et de marge de manœuvre. Mais en vrai, les modèles restent très traditionnels, hein. Surtout dans les classes favorisées et tout. Ça a pas changé grand-chose chez eux, hein. La mif. Purée, il y a une mouche qui a fait rentrer dans ma bouche, j'ai pété un câble. Anyways. Bref, tout ça pour dire que donc cet archétype-là, beaucoup de bouleversements, vraiment beaucoup d'évolutions au fil des époques. Il y a une époque où c'était un symbole de sécurité hein, pour la femme, de se marier et d'entrer dans une relation, dans un ménage avec un homme, quitter enfin la maison de son père, quitter le joug aussi de son père. C'est marrant, hein. On pense qu'on obtient une nouvelle liberté grâce à ça, alors qu'en fait on passe d'une paire de mains à une autre paire de mains. Donc c'est assez triste. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a tous ces discours autour du fait Alors moi, je dirais pas que c'est de l'inclusion, parce que tu peux pas empêcher les gens de se marier en fait. Oui, tu peux empêcher les gens de se marier selon telle ou telle religion, mais comme je vous ai dit, le mariage, ça existait déjà avant en fait. C'est juste que là où ces religions, elles ont été malignes, c'est qu'elles ont institutionnalisé le mariage. Le mariage est devenu le contrat le plus puissant qui puisse exister, enfin voilà quoi. Dans certaines constitutions et dans certains codes pénaux. J'espère que je ne me trompe pas, je suis pas avocat, hein, mais je pense que c'est du pénal ou du civil. Mais je pense que ouais, c'est du pénal ou du civil. Il me semble que la femme n'est pas toujours obligée de témoigner contre son mari. Hein. La femme, enfin, elle a le choix en tout cas de ne pas témoigner contre son mari, de même qu'un mari a le choix de ne pas témoigner contre sa femme si son mari. Bon, je ne sais pas si c'est présent partout, hein, ce truc, mais ça en dit long sur l'impact, je trouve, de l'institution du mariage sur la loi elle-même. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, en fait, je me marie avec je sais pas qui, et juste parce qu'on est marié, la personne n'a pas le droit de témoigner contre moi. Donc, en fait, j'attaque cette personne, je lui vole son argent, on se marie, je lui fais signer un truc et il m'arrive rien, en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu le move aussi. D'autant plus que ça me fait penser aux histoires de. Alors là, changement total d'ambiance, on passe de l'archétype du mariage dans l'Antiquité à pop culture américaine. Et en fait, ça me fait penser à une nana qui s'appelait Aaliyah, paix à son âme. Et en fait, c'est une petite chanteuse de R&B et tout, voilà, américain, blablabla. Et en fait, elle a été mariée, je crois, à 15 ou 16 ans. Et ça, c'est grave du bullshit parce que quand elle s'est mariée, enfin, elle s'est mariée, quand on l'a mariée, je crois que le mec avait deux fois son âge, un truc comme ça, un truc super creepy. Je sais pas comment on peut laisser son enfant à 15-16 ans se marier avec un mec qui a deux fins, ça n'a aucun sens. Anyways, et donc cette nana se retrouve mariée avec ce gars-là, sauf que avant qu'il se marie, elle était déjà sortie avec d'autres exécutifs en fait dans l'industrie de la musique et des artistes reconnus, hein, comment ils s'appellent? En plus, des gens qui sont milliardaires aujourd'hui, hein. Je crois, hein, mais peut-être que je me trompe. Je crois que Jay-Z est sorti avec Aaliyah. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, je crois que c'était un truc genre Jay-Z. Comment il s'appelle? Son nom m'échappe. De toute façon, c'est pas important. C'est même pas l'audience de Mythologie Astrale qui connaît ces gens-là. Mais bref, plein de vieux qui sont, voilà, qui sont sortis avec elle, mais en vrai, qui ont couché avec elle. Et donc elle se marie et je me demande en fait parce que le dernier mariage dans lequel elle était avant de mourir, mystérieusement, hein, dans un accident, il me semble que c'était avec R. Kelly. Et je me dis mais est-ce qu'en fait le mec il l'a pas épousée juste pour qu'elle ne puisse pas témoigner contre lui et tout par rapport à ce qui se passait. Enfin bref, super creepy, clairement ça c'est le dark side de cet archétype relationnel, on va revenir sur le fil. Et donc voilà, donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolutions au fil des époques, il y a eu une influence majeure de la religion et des changements sociaux au cours des mouvements féministes. Et le meilleur, comment dirais-je, le meilleur exemple pour montrer en fait la puissance de l'institution du mariage, c'est évidemment les mariages royaux. Hein, quand on voit les mariages royaux et comment une alliance entre deux familles royales peut complètement changer l'échiquier politique et géopolitique d'un pays et même d'un continent, hein, je pense à l'Europe, à plusieurs époques, enfin de tout temps en fait, j'ai l'impression que ça s'est jamais arrêté, où on a comme ça des super mariages entre des super familles, royales ou pas, qui changent complètement la donne, qui changent complètement l'environnement, quoi. Je pense aussi aux épopées romantiques, donc là on est plutôt au Moyen-Âge. Avec la quête du Saint Graal, voilà, la quête de tous les avatars aussi du Saint Graal, hein, parce qu'au final, on cherche une fleur, on cherche le One Piece, on cherche le. Voilà, chaque année, on lui donne un nom différent, mais c'est le Saint Graal, en fait, qu'on cherche pour être exaucé, pour être pardonné, pour transcender aussi un petit peu cette réalité. On a aussi l'institution du mariage qui symbolise bien cet archétype de la relation conjugale formelle. Et donc ça, c'est vraiment valable dans toutes les cultures. Moi, je pense que si on pense à une institution du mariage qui est vraiment solide et qui a réussi à résister aux avancées et aux innovations technologiques, c'est vraiment l'institution du mariage en Inde, je trouve. Vraiment l'Inde, que ce soit l'Inde ou même l'Afrique, et encore l'Afrique, je trouve qu'on est vachement influencé par la culture occidentale. Les Indiens aussi d'une certaine manière, mais je trouve que le fait qu'ils aient gardé en fait leur propre religion, leur propre culture et leur propre spiritualité, en tout cas pour certains, pas tous, ça leur a vraiment permis de se protéger aussi de certaines choses. Et en ça, ouais, si vous allez en Inde, il y a encore plein de mariages. Alors malheureusement, je trouve qu'ils sont plus du côté dark, de l'archétype des époux que du côté, voilà, parce qu'il y a encore beaucoup de mariages forcés en Inde, surtout dans les régions les plus pauvres et rurales. Hormis ça, voilà, je trouve que c'est quand même un pays qui a réussi à maintenir voilà, l'importance du mariage. Alors, je dis pas que c'est le truc le plus important de la Terre, mais en tout cas, pour eux, c'est important et ils ont réussi et ils ont décidé de le défendre et de le protéger. Donc, voilà un petit peu pour cet épisode sur l'archétype des relations conjugales conventionnelles ou du couple, on peut dire, hein, l'archétype du couple. Je pense qu'il y aurait eu encore beaucoup de choses à dire, mais je vous tends le micro. Et je vous demande peut-être de partager avec moi des exemples de l'archétype des époux qui sont présents dans la pop culture, dans la littérature, dans le cinéma, etc. Je serais assez curieux de voir justement vous, comment vous percevez en fait cet archétype. Et n'hésitez pas aussi à commander et réserver plutôt vos lectures compréhensives de thèmes en envoyant un email, voilà, ou en allant directement sur le site internet de mythologieastrale.com. Ce mois-ci, sur Mythologie Astrale, en février, on est vraiment sur l'amour de soi, la priorisation de soi et le fait de cultiver des liens dans une communauté d'amour, dans une communauté qui est aimante. Voilà. Et donc, on a pas mal d'événements et de projets qui sont prévus aujourd'hui. Et voilà, moi, je suis hyper excité à l'idée de partager ça avec vous. Je rentre un peu dans une période où je suis juste hyper excité de partager les nouvelles choses avec vous. Moi, je les connais, je les fais en fait dans mon coin. Et vous allez les voir arriver au fur et à mesure. Et c'est juste, voilà, l'anticipation de ça me procure beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup, beaucoup de joie. Donc, merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Et on se retrouve au prochain épisode où on va parler d'un archétype qui est muito, muito, muito caliente. C'est l'archétype des amants. Voilà. C'est l'archétype des amants. Et donc ici, on est dans une relation amoureuse et intime qui est en dehors du cadre conjugal. Voilà. En dehors, donc c'est vraiment la passion, l'extrême, etc. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler parce que ça va être spicy, ça va être super spicy. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.